إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
Louons Allah qui nous ait permis de se réunir de cette manière dans ces assises où nous étudions ensemble le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous en sommes arrivés au verset 138 de Sourate Al-Baqarah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Sibratallah. ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. Allah Ta'ala dit dans le sens des versets, nous suivons la religion d'Allah. Et qui est meilleur qu'Allah en sa religion? C'est lui seul que nous adorons. Sibrat Allah, Sibra en langue arabe, c'est la teinte, le ton, bien. Quand on englobe quelqu'un d'un liquide, une chose d'un liquide. D'ailleurs, certains ulama disent ici qu'Allah Ta'ala a nommé ici la religion d'Allah avec ces termes-là, la teinte, le ton. Car en fait, c'est comme un vêtement qui a été teint, dont la couleur est apparente. De même, quelqu'un qui est imprégné par la croyance de l'islam et la voix de l'islam, alors on peut apercevoir sur lui les effets de cette teinte, de cette saine nature. Aussi, certains savants ont expliqué ce verset en parlant du fait que les chrétiens, quand ils baptisent leurs enfants, ils l'imprègnent d'eau, ils le plongent dans l'eau, le baptême chez les chrétiens. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu leur répondre ici que la religion d'Allah, ce par quoi les gens de l'islam sont imprégnés comme vérité et plus à même d'être suivis, c'est la meilleure religion, c'est la meilleure teinte, entre guillemets teinte. Et ça revient au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tout enfant naît sur la saine nature, c'est-à-dire sur l'islam. Tout enfant, il naît sur l'islam, sur la saine nature. Et ce sont ses parents qui le rendent juif ou chrétien ou zoroastrien. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit ses parents le rendent musulman, car il naît musulman. Il naît sur la saine nature, sur sibrat Allah, sur la teinte, sur la fitra, fitrat Allah. Ici, c'est dans le sens, la fitra, la milla, le din, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala enjoint à s'attacher à la religion, à la voie, à la saine nature, sur laquelle Allah a créé l'homme, qui est la foi, qui est la soumission, qui est la religion qu'Allah a choisie pour l'humanité. Et Allah Ta'ala nous ordonne en cela de la mettre en pratique de la meilleure des manières par les actions apparentes et cachées, par les croyances, par les bonnes paroles, par les bons comportements dans tous les moments, comme une personne qui est imprégnée de ces qualités-là. C'est ça qu'il a dit « Sibrat Allah ». Comme un vêtement qui a été teint d'une couleur, il ne laisse pas cette couleur-là. Dans toutes les situations, dans tous les moments, c'est devenu une caractéristique propre à lui, cette couleur. De même, celui qui est imprégné par la religion de l'islam, ce n'est pas un habit qu'il s'habille quand il va à la mosquée et qu'il délaisse dès qu'il sort de la mosquée, il l'accroche. Mais il est imprégné par cette foi, par cette croyance, par cette pratique, par cette voie, jusqu'au point où c'est devenu une caractéristique propre à lui, une nature. Il est revenu à sa saine nature. C'est ça le sens ici de Sibrat Allah. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit « وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبْرَةً » Et qui est meilleur qu'Allah en sa religion? Quelle meilleure croyance, quelle meilleure voie pouvons-nous donc nous en imprégner, si ce n'est de s'imprégner complètement de la croyance de l'islam et de la voie sur laquelle l'islam nous a laissé? Et ça, c'est en réponse justement aux affirmations des gens du livre qui disaient « Nous, nous sommes plus à même, plus proches d'Allah ». Et toute affirmation et toute prétention nécessite des preuves. Qu'Allah Ta'ala a voulu par cela leur montrer que la religion d'Allah, la voie qu'Allah a choisie, c'est la meilleure. « وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ سِبْرًا » Et ici Allah Ta'ala montre que celui qui est imprégné par les enseignements de l'islam, il est certes meilleur que celui qui est imprégné par tout son contraire. Le polythéisme, la mécréance, le fait de renier Allah Subhanahu Wa Ta'ala, le fait de lui donner des associés, le fait d'avoir des défauts contraires, contradictoire à ce à quoi la religion de l'islam appelle. Le mensonge, la tromperie, les bassesses, le manque de pudeur, le manque d'honneur, et toute croyance et tout acte contradictoire aux enseignements de l'islam. Puis Allah Ta'ala finit ses versets en disant que les croyants disent « وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ » وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ Et c'est lui seul que nous adorons. Car les savants disent ici, quand Allah Tabaraka wa Ta'ala a devancé celui qui est adoré avant ceux qui adorent, en avançant « لَهُ » avant « عَابِدُونَ », ceci montre que c'est pour spécifier que Allah seul est adoré, subhanahu wa ta'ala. C'est comme quand on dit « Iyaka na'budu » au lieu de dire « Na'budu Iyaka » nous t'adorons toi. « Iyaka na'budu » c'est toi seul. Le fait de devancer ici le complément, c'est pour justement montrer la spécificité de cette action pour Allah subhanahu wa ta'ala. « Wa nahnu lahu 'abidun » et c'est lui seul que nous adorons. Par les paroles, par les actes apparents, par les actes cachés, par toute chose qu'Allah tabaraka wa ta'ala a légiféré sur la langue de son messager sallallahu alayhi wa sallam, par la sincérité, par le fait que le serviteur dirige ses actes pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et ici quand Allah ta'ala dit que les croyants disent et c'est lui seul que nous adorons, l'adoration, l'ibada, c'est un nom qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée parmi les œuvres et les paroles apparentes et cachées. Et ceci ne peut être considéré comme une adoration que si cela a été légiféré par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'une adoration n'est considérée comme adoration qu'avec deux conditions. La sincérité et le suivi. La sincérité et le suivi. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit « قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ » Dans le sens de sa parole, dit « Discutez-vous avec nous au sujet d'Allah, alors qu'il est notre Seigneur et le vôtre, à nous nos actions et à vous les vôtres, c'est à lui que nous sommes dévoués. » Ici, le muhajja, qui est le débat, c'est quand il y a un débat entre deux personnes ou deux parties, ou plus que deux personnes. Et en général, cela concerne des questions sur lesquelles ils ne sont pas d'accord. Deux adversaires. Et chacun cherche à défendre son avis et à rendre nul l'avis de son adversaire. Et chacun fait le maximum d'efforts pour amener les preuves sur la véracité de ses positions. Et le débat constructif, c'est celui qui est fait de la meilleure des manières. Celui pendant lequel on repousse le faux par la vérité, par des preuves. Celui pendant lequel on amène des arguments solides contre l'entêté et on éclaircit la vérité et on démontre la nullité et le faux. D'ailleurs, il faut savoir que parmi les fondements des gens de la sunna, c'est de délaisser les polémiques et les débats en religion. Est-ce que ça veut dire par là que le débat et la polémique sont interdits dans l'absolu? Non. Le débat et la polémique sont interdits en général, sauf quand certaines conditions sont réunies. D'ailleurs, il y a plusieurs versets qui blâme les gens qui cherchent à polémiquer. Il y a des hadiths sahih authentiques où le prophète sallallahu alayhi wa sallam enjoint de délaisser la polémique et les débats futiles. Il y a même des hadiths authentiques où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam démontre clairement qu'il n'y a pas un peuple qui s'est égaré après qu'il ait été sur la guidée sans qu'ils aient été touchés par l'art de la polémique dans le sens du hadith. De même qu'il est venu dans un hadith authentique, la personne la plus détestable auprès d'Allah est le polémiqueur virulent dans le sens du hadith. Donc la polémique et le débat, ce ne sont pas des choses qui sont aimées en islam. Et on ne débat pas sur les choses de la religion, surtout sur les choses de la croyance. On les apprend, on les comprend, on les met en pratique. Mais le débat, parfois, il peut être obligatoire ou il peut être nécessaire. Pour cela, il nécessite des conditions. Premièrement, celui qui débat doit être à la recherche de la vérité ou bien il cherche à montrer la vérité et non pas chercher à gagner sur son adversaire pour élever sa propre personne ou pour avilir et rabaisser son adversaire. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, c'est que la personne qui débat doit maîtriser totalement le sujet dont il va parler. Et il doit maîtriser les ambiguïtés qui existent chez l'adversaire et savoir comment y répondre de manière claire. Sinon, il lui sera interdit de débattre. La troisième condition que les savants énoncent, c'est qu'il y ait un intérêt prépondérant à ce débat. Que veut dire il y a un intérêt prépondérant? C'est-à-dire, ou bien la personne avec qui on débat cherche sincèrement la vérité. Et moi, je suis capable de lui enseigner. Je maîtrise ce sujet. Je sais comment répondre à ses ambiguïtés. Donc, il y a un intérêt. Là, il y a un intérêt à débattre. Ou bien, la personne avec qui je débat ne cherche pas la vérité. Mais il répand le faux. Et ses ambiguïtés sont en train de toucher les gens. Et j'ai besoin de débattre avec lui pour montrer la nullité de ses arguments. Je pense à une potentialité très forte ou bien un très grand pourcentage que je vais pouvoir arriver à cela. Car, bien sûr, on revient aux deux premières conditions. Je mets la sincérité et vouloir que la vérité gagne et puis maîtriser le sujet. Maîtriser le sujet, bien sûr. Donc, parfois, certains gens de la Sunna débattent avec des innovateurs, même quand ils savent que ces innovateurs ne cherchent pas la vérité, pour les rabaisser, pour les avilir, pour montrer la nullité de leurs arguments et pour que les gens arrêtent d'être trompés par leurs ambiguïtés. Ali ibn Abi Talib a envoyé Abdullah ibn Abbas débattre avec les Khawarij. L'imam Ahmad ibn Hanbal a débattu avec une des têtes des innovateurs à son époque parce qu'il y était contraint. Donc, voilà les conditions pour débattre. Et après, il y a des politesses. Ceci sont les conditions. Après, il y a les politesses. Allah Ta'ala nous a enseigné, même le débat avec les chrétiens, avec les juifs, avec toute personne, même qui n'est pas de notre religion. Allah Ta'ala nous a ordonné de débattre avec eux de la meilleure des manières. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Puis, il y a beaucoup d'autres règles liées au débat, dans la manière de débattre, dans les méthodes utilisées pour débattre, dans les arguments devancés pour débattre. Il y a, alhamdulillah, les savants ont parlé en détail de ce sujet. Donc ici, Allah Subhanahu wa Ta'ala dit, c'est-à-dire, il dit aux croyants de dire à qui? Aux gens du livre. Discutez-vous avec nous au sujet d'Allah, alors qu'il est notre Seigneur et le vôtre. À nous nos actions et à vous les vôtres, c'est à lui que nous sommes dévoués. C'est-à-dire, ceux qui prétendent parmi les juifs et les chrétiens que nous on est plus proches d'Allah, on connaît mieux la vérité que vous. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit aux croyants de leur répondre, quelle différence entre vous et nous? Nous sommes tous des serviteurs d'Allah. Il est notre Seigneur et il est votre Seigneur. Il est le Seigneur de tous. Et nous, nous avons nos œuvres pour nous. Et vous, vous avez vos œuvres pour vous. Mais la différence entre vous et nous, c'est que nous, nous lui sommes dévoués. Nous l'adorons sincèrement. Nous lui donnons pas d'associés. Nous obéissons à ses ordres. Donc nous sommes plus à même de dire que nous sommes plus proches d'Allah. Car nous pratiquons ce qu'Allah nous demande. À la différence de vous qui êtes là qu'à avoir des prétentions sans jamais prouver vos prétentions. Quand Allah Ta'ala dit de dire aux croyants wa nahnu lahu mukhlisun, c'est-à-dire que nous lui sommes dévoués et soumis et nous l'adorons d'une manière sincère sans lui donner d'associé subhanahu wa ta'ala. Et voilà donc la différence entre les alliés d'Allah et les alliés de Shaytan. Car les alliés d'Allah ne se suffisent pas de prétentions. Ils mettent en pratique ce qu'Allah a demandé. Voilà pourquoi ils sont plus à même d'être proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, Allah ta'ala dit, أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارًا
قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
Dans le sens des versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ou dites-vous que Ibrahim et Ismaïl et Ishaq et Yaqub et les tribus étaient juifs ou chrétiens? Dis, est-ce vous les plus savants ou Allah? Qui est plus injuste que celui qui cache un témoignage qu'il détient d'Allah? Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Voilà une génération belle et bien révolue. À elle ce qu'elle a accompli, à elle ce qu'elle a acquis, et à vous ce que vous avez acquis. Et on ne vous demandera pas compte de ce qu'ils faisaient. Donc après qu'ils aient prétendu qu'ils étaient plus proches d'Allah, maintenant, ils ont des prétentions quant à leur proximité dans les messagers. Et qu'ils sont plus à même de s'affilier à ces prophètes et à ces messagers que les bien-aimés d'Allah et que les musulmans qui se sont soumis à la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. D'ailleurs, Allah ta'ala les reprend. « A'antum a'lamu amillah ?» Savez-vous mieux qu'Allah ? Est-ce vous les plus savants ? Ou Allah le plus savant? D'ailleurs, Allah Ta'ala ne répond même pas à cette question, tellement c'est évident, la réponse est évidente. C'est comme si je te disais, est-ce que le feu il brûle plus ou l'eau? Est-ce qu'il y a plus d'éclairage la journée ou la nuit? Ou est-ce que le polythéisme est meilleur ou bien le monothéisme? Ce sont des questions qui ne nécessitent pas de réponse, tellement la réponse est claire. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a déjà dit dans le Coran que Ibrahim n'était ni juif ni chrétien, mais il était dévoué sur la droiture, soumis, et il ne faisait pas partie des polythéistes. Et ça, ils le savent très bien. Dans d'autres versets, Allah ta'ala démontre bien qu'à l'époque de Ibrahim, ni la Torah ni les évangiles n'étaient révélés. Alors comment Ibrahim alayhi salam, il aurait pu se dire juif ou chrétien comme eux ils prétendent? Donc ils savent très bien que Ibrahim alayhi salam, il était sur al-hanifiyya, la droiture, la religion de droiture, l'islam, la soumission à Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit: et qui est donc plus injuste que celui qui tient un témoignage qu'il détient de la part d'Allah? C'est-à-dire mentir sur Allah sciemment. Et Allah leur rappelle: wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun. C'est-à-dire qu'Allah dénombre leurs œuvres et il les a mis de côté pour leur en donner la rétribution. Et quelle mauvaise rétribution, car sa rétribution, la rétribution des injustes, est l'enfer. Dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala énonce après les œuvres des serviteurs, il énonce certains de ses attributs et certaines de ses qualités, subhanahu wa ta'ala. Les versets qui comportent des œuvres pour lesquels les gens seront récompensés, rétribués en bien ou en mal, cela va dans le sens de la promesse et de la mise en garde d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la motivation, de la promesse et de la menace, de la motivation et de la mise en garde. Et Allah ta'ala nous rappelle par cela ses noms et ses attributs, ses plus beaux noms et attributs subhanahu wa ta'ala, après ses règles, ses ordres religieux pour lesquels il y a des rétributions et des récompenses, des effets. Et ceci n'est qu'un effet et une implication de ces noms et ces attributs, subhanahu wa ta'ala. Puis Allah ta'ala finit ce passage ici en rappelant le même verset qui a été dit dans le verset 134. Voilà une génération belle et bien révolue, à elle ce qu'elle a acquis, et à vous ce que vous avez acquis, et on ne vous demandera pas compte de ce qu'il faisait. On l'a déjà expliqué dans le verset 134. En résumé, il ne sert à rien de se vanter des œuvres de ses aïeux et de dire « Mon père était un tel, je suis descendant de Bani Israël, je suis descendant de Yaqub, je suis descendant de tel, mon père était un hajj, mon père était ci, mon frère a fait la umra, mon frère est savant, mon frère... » Toi, tu as fait quoi ?« Tilka ummatun qad khalat. Laha ma kasabat, wa lakum ma kasabtum, wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. » Chacun répondra de ses propres œuvres. Cela ne sert à rien de se vanter des œuvres de ses aïeux, ou bien de l'honneur et de la place et de la valeur de ses aïeux, ou de ses ancêtres. Et ceci est valable aussi pour des gens vivants, ou de ses proches, ou de ses amis. Donc Allah Ta'ala ici rappelle que cela ne sert à rien de s'affilier à des gens si on ne suit pas leur voie. Mais l'important, c'est de faire nous-mêmes des bonnes œuvres et des bonnes actions agréées par Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallillahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.